Vous nous avez dit, Henri Van Leer, qu'à partir de Baudelaire, l'écrivain va désormais le plus souvent se situer quelque part en dehors du monde. Et c'est donc aussi le cas de Flaubert.
Quand on le présente comme l'ermite, c'est bien ça qu'il est. Il est Saint-Antoine. Il est Saint-Antoine sur son rocher, comme quelqu'un qui ne voit ni à gauche, comme il le dit, ni à droite. Il a quelque chose qui est là devant lui, et qui donc ne va pas faire un isolement comme celui de Baudelaire, qui est une tresse dans laquelle il y a de l'air, dans laquelle il y a une sorte de distance intérieure. Au contraire, il va prendre le parti presque inverse, et qui est celui de la compacité, de la constriction. Il faut dire le mot de manière presque flaubertienne, donc d'une manière bourrue, la constriction, en faisant sortir presque excessivement toutes les consonnes. Et transportons-nous au cœur du phénomène, dans la phrase bien connue, mais à laquelle il faut toujours revenir, c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. On n'a jamais sans doute fait un dispositif plus fermé, plus étranglant que ce « c'était », imparfait, mais à Mégara, faubourg, avec chaque fois deux ou trois syllabes, grand maximum, de Carthage, et puis pour tout à fait nous faire comprendre, c'est dans, bien entendu, dans. Et dans quoi? Dans un des mots les plus lourds, du moins dans ce contexte, dans des jardins, le AR encore appuyé par la tenue « je », les jardins, est le mot énorme « Amilcar ». Avec ceci que Carthage est déjà, rien que par son nom, Carthage, rien qu'à le dire, Carthage ce n'est pas Rome, ce n'est pas Athènes, ce n'est pas Persépolis, non, c'est quelque chose avec ses deux A et de nouveau sa tenue et son R et son K qui est la plus compacte des consonnes, Carthage est déjà à soi seul un poème complet. Et voilà tout le référentiel qui est donné, c'est-à-dire je suis dans l'étouffement, mais ce n'est pas un simple étouffement. On dit parfois maintenant que les gens qui étouffent connaissent au moment de leur mort une espèce d'illumination incroyable. Nous avons toutes sortes de témoignages là-dessus actuellement. On pourrait dire qu'il y a quelque chose de cela dans la situation flaubertienne. Et de Flaubert qui écrit, et bien entendu de nous qui lisons Flaubert. Il faut nous laisser étouffer, mais dans cet étouffement, à un certain moment, dans la mesure même où nous allons jusqu'au fond de l'expérience, il y a une béatitude qui s'installe. Je n'ose pas dire un éclaircissement. Salammbô, dont le titre est de nouveau tout un programme, le A, le Am, Salammbô, justement, avec toute l'épaisseur du B, et ce O, ce double O, Salammbô, va être une pièce unique dans la littérature universelle. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'un être humain va, dans l'écriture, faire quelque chose qui n'avait jamais existé que dans la musique, c'est-à-dire déterminer par des sons un certain espace et un certain temps, et de le maintenir absolument égal à lui-même pendant 300 pages. Il a réalisé ce qui pour Edgar Poe était irréalisable. Edgar Poe est celui qui, un des premiers, dit « le poème long est impossible ». Si vous faites par exemple « Paradis perdu » de Milton, pour reprendre son exemple, vous pouvez donc faire une succession de poèmes courts, de 15 vers, de 20 vers, mais un cerveau ne peut pas tenir cette même tension après par exemple une demi-heure. Or, Salammbô réalise cela. C'est-à-dire qu'on peut lire Salammbô pendant des heures, on est toujours exactement au même niveau, je dirais, de tension cérébrale, commence vraiment à avoir l'huile épileptique, lui le fils de médecin qui a visité les hôpitaux, il a le sens du cerveau. Et ce qui l'intéresse, c'est mettre le cerveau dans cet état de fonctionnement où il est, pourrait-on dire, presque tout le temps au bord de la crise épileptique. Ce qu'on a décrit parfois, c'est un joli mot, comme le tempérament glycéroïde, comme le tempérament visqueux, allant à travers cette espèce d'empattement, un peu comme chez Van Gogh, allant en même temps vers une série de déclics. C'est moi, il faut lire, il faut se laisser faire, il faut acquiescer. Les soldats qu'il avait commandés, vous tous avez entendu la phonie de tout ça, avec le cœur, qu'il avait commandé en Sicile, mot fermé justement avec sa répétition, Sici, en Sicile, se donnait un grand festin. Évidemment, les festins vont jouer un rôle capital. Pourquoi ? À cause précisément de l'accumulation. Et quand je fais accumulation, je ne fais pas du tout le geste de Balzac. Ce n'est pas du tout le geste de quelque chose qui est surabondant, de quelque chose qui déborde. Non, c'est quelque chose qui revient vers moi. C'est-à-dire que si j'ai un mètre, je le divise par deux en 50 cm, puis dans ces 50 cm, il y a encore des choses. Et dans ce qu'il y a là, il y a encore toujours d'autres choses. Un grand festin. Donc, il y a le festin. Il y a les joyaux, bien entendu. Les bijoux. Les bijoux, des fleuves de bijoux. La robe couverte de bijoux. Bien sûr, la robe de Salammbô, mais c'est également le voile qui a été perdu, le taïm lui aussi, et cette constriction et les choses sont l'une dans l'autre. Et bien entendu, ce qui va être, je dirais, le matériau privilégié, c'est le sang. Antoine, c'est-à-dire Flaubert, descendra vers la ville d'Alexandrie, et il marchera d'abord dans le sang qui lui viendra jusqu'aux pieds, puis le sang qui viendra jusqu'aux genoux. Et ce n'est pas un sang fluide, non, c'est un sang épais, aussi épais que le style de Flaubert. Et je répète, de nouveau, dans cet étouffement, et comme le maître était absent, et qu'il se trouvait nombreux, il mangeait et il buvait en pleine liberté. Il ne va pas dire en liberté, il va employer donc justement un mot qui de nouveau a toute l'épaisseur, tout le côté bourru et dense flaubertien, qui est le mot pleine. Il buvait en pleine liberté. Et ça montre à quel point donc la pleine liberté est la destruction de toute liberté d'ailleurs. Alors tout suit comme ça. Tous les malheurs, venaient donc, attention, un donc si, rentre dans l'épaisseur de la perte du Zaïm. Et il s'appelle le voile en question, qui va être le seul élément qui soit une trame plus ou moins narrative dans Salammbô, va être ce Zaïm avec toutes ces consonnes qui le referment et en même temps l'ouvre comme du dedans et lui donne un miroitement intérieur. Il est le Z-A-A et puis l'écart-A-I que nous avions déjà rencontré dans Arnebeli, mais que nous rencontrons ici dans la constriction flaubertienne du Zaïm. Alors surtout, je, pour le dire en passant, hein, on a dit que c'était une épopée en prose, etc. Je pense que la première chose à dire, c'est que c'est justement pas une épopée. C'est une expérience spirituelle, mais précisément pas une épopée, et la trame est totalement insignifiante. Alors certains se diront, oui mais quoi, on va lire comme ça, donc 300 pages? Oui, exactement. Ça continue comme ça pendant 300 pages. C'est insupportable à certains, comme toutes les grandes expériences spirituelles. Comme monter à l'Everest, c'est évidemment insupportable. Pour des raisons inverses, parce que là, il n'y a plus d'air. Bon, ça va. Ici aussi, vous n'avez pas d'air, mais c'est pas parce que l'air manque, mais c'est parce qu'on vous strangule. La vague idée d'une immolation bientôt circula dans le peuple. Et évidemment, la scène fondamentale sera celle où tous les barbares vont être attirés entre deux montagnes, où on va fermer les défilés et où ils seront là, enfermés, dans la constriction et la strangulation la plus complète possible, et vont tous, pour finir, mourir dans ce trou, avec tous les retournements possibles, tous les emmêlements et démêlements de cette situation complètement bloquée, mais où sans doute ils font en même temps une expérience, ou en tout cas nous, une expérience béatifique. Et un autre passage tout aussi essentiel à Salammbô, on peut aussi le deviner, c'est qu'à un moment, le héros, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va descendre vers la ville. Dans quoi? Comment? Par une route? Mais non, dans un aqueduc. Et bien entendu, de façon très flaubertienne, l'aqueduc va se resserrer de gauche à droite et de haut en bas à mesure qu'il avancera. On peut continuer indéfiniment. Est-ce que il a été conscient de la mécanique en question? Eh bien, plus ou moins, c'est-à-dire qu'il fait quelque chose qui est assez rare, c'est que tout d'un coup, il parle de son propre langage. Nous avons vu Stendhal parler de le rouge et le noir et faire des critiques qui nous ont même paru pas tout à fait exactes. Je crois qu'il dit pas mal de choses, Flaubert. Voici sa phrase. « J'en conçois ». Vous m'excuserez d'insister à ce point-là, mais vous voyez, nous savons déjà à peu près que nous sommes dans Flaubert. « J'en conçois un pourtant, moi, un style. » Qui écrit comme ça? Un flamand, au moins. C'est Flaubert. Et ça, c'est son style. Il écrit pour lui, là. Prenez note. « J'en conçois un pourtant, moi, un style. » Alors, c'est quoi? Qui serait beau? Beau. Je crois que ce qui lui plaît là-dedans, c'est surtout le B. Enfin, il le lance comme ça. Ça ne veut pas dire grand-chose, sinon simplement que le style en question ne sera pas référentiel. On ne va pas raconter une histoire, sans doute. Hein, qui serait beau. Mais alors, ça suit, c'est pas mal. Qui serait rythmé. Ah, voilà que nous retrouvons Edgar Poe. Il s'agit qu'il y ait à l'intérieur un maître. Et vous vous souvenez que Stendhal parlait d'ailleurs, lui, de nombre. Donc, la théorie, là, se rejoint très, très bien. Qui serait rythmé, comme le verre. En fin de compte, quand j'écris « Mais ils aperçurent un petit lac », je lis tout à fait au hasard, hein, divisé en plusieurs bassins par des murailles de pierre bleue, je suis dans un système qui est entre la prose et le verre. L'onde était si limpide que les flammes des torches tremblaient jusqu'au fond, sur toujours le même fond, la même délimitation, sur un lit de cailloux blancs et de poussière d'or. Elle se mit à... Alors, on était dans un autre monde, pas du tout, nous revenons bien au monde Flaubert. Elle se mit à bouillonner, des paillettes lumineuses glissaient, et de gros poissons qui portaient des pierreries à la gueule apparurent vers la surface. Bien sûr, ils vont les bouffer, hein. Alinéa suivant, les soldats, en riant beaucoup, très flaubertien, nous, leur passèrent les doigts dans les ouïes et les apportèrent sur les tables. J'en conçois un, pourtant, moi, un style qui serait beau, qui serait rythmé comme le verre, précis comme le langage des sciences. Alors là, il faut bien comprendre, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de faire du réalisme? Pas du tout. La science est chez Flaubert le dernier élément de la constriction béatifiante. Ça ne peut jamais être inexact dans la mesure du possible. Parce que toute inexactitude, tout flottement à la Balzac nous ferait sortir de la constriction. Balzac peut faire des à peu près, il doit même en faire, parce que c'est ça qui évoque les puissances. Précis, comme le langage des sciences. Et alors, entendez ça, et avec des ondulations, des ronflements de violoncelle. Et on a déjà envie de parler de violoncelle à propos de Chateaubriand, à propos de Baudelaire, à propos d'Hugo à certains moments. Mais alors, au moment où les poissons ont des paillettes lumineuses glissèrent, eh bien voici ce qu'il note, c'est que dans ces ronflements de violoncelle, il y a tout d'un coup des aigrettes de feu. Voilà sa description du style. Un style alors, il n'a pas tout à fait fini, qui vous entrerait, il s'agit toujours d'entrer chez lui, on ne sort jamais d'aucune manière, qui vous entrerait dans quoi? Il va employer le mot qui est toujours le plus vaste, le plus lointain possible pour nous, et qui est l'idée. Comme un coup de stylet, et où votre pensée, avec toute sa lourdeur, Flaubert, voguerait sur des surfaces lisses. Et c'est ça tout le paradoxe. Il s'agit de faire un style qui soit épais, et en même temps où il y ait de ces fulgurations de coups de stylet, et où on soit sur des surfaces lisses. Et là, je crois que nous étions remarquablement bien tombés avec nos fameux poissons, comme lorsqu'on file en canot avec un bon vent arrière. Je ne résiste pas à la tentation de vous faire encore une fois entendre. Et le semi-l'eau, donc, a bouillonné. Des paillettes lumineuses glissèrent et de gros poissons qui portaient les pierreries à la gueule apparurent vers la surface. Toujours la situation flaubertienne de la respiration en surface. Et donc, nous saisissons sur le fait ce que c'est que le sujet langagier d'un auteur, c'est-à-dire cette topologie profonde, ce fantasme fondamental que nous avons vu très souvent sur deux lignes ici, trois lignes là, etc., où on pouvait avoir l'impression que c'était des fulgurations transitoires. Grâce à Salammbô, on peut voir que ce fantasme est absolument continu et peut tenir pendant 300 pages. Eh bien, ce n'est pas vrai, ça peut tenir pendant 1500 pages. Et on peut maintenant reprendre toutes les œuvres de Flaubert. Ce sera toujours la même chose. Je prends très rapidement maintenant le début de toutes les œuvres. Hérodiade, la citadelle de Machaerus se dressait à l'orient de la mer morte. Où ça ? Sur un pic de basalte ayant la forme d'un cône. Vous n'avez pas compris ? Quatre vallées profondes, qu'est-ce qu'elles font ? L'entouraient. Deux vers les flancs, une en face, la quatrième au-delà. Ce n'est pas fini, la phrase suivante. Des maisons se tassaient contre sa base. Je saute parce que je prends Julien l'hospitalier. Les premiers mots toujours, hein. Le père et la mère de Julien habitaient un château au milieu des bois, sur la pente d'une colline. Premier alinéa, si vous n'avez pas compris, les quatre tours aux angles avaient des toits pointus, recouverts d'écailles de plomb. Et tout suit. Saint Antoine commence, c'est dans la Thébaïde, au haut d'une montagne, sur une plateforme arrondie en demi-lune et qu'enferme de grosses pierres. Mais Bouvard et Pécuchet commencent comment ? Comme il faisait une chaleur de 33 degrés. Alors où est-ce que ça se passe ? Bon, c'est à 34 degrés, si c'est 34 degrés, il n'y a plus rien. Si c'est 35 non plus, il faut absolument que ce soit 33 degrés. Et il faisait une pente. Et c'est où ? Bien entendu, ça ne peut se passer qu'à un seul endroit. Le boulevard Bourdon. Le boulevard Bourdon. Il se trouvait absolument désert, exactement comme dans la tentation de Saint-Antoine. Même l'éducation sentimentale, le 15 septembre, c'est pas le 18, hein, non plus, le 15 septembre 1840, vers 6 heures du matin, et le vers ici renforce de nouveau, la ville de Montereau, près de partir, c'est le bateau va partir. Ah bon, on va donc avoir les mouchoirs, le glissement. Ah non, nous sommes chez Faubel. Fumée à gros tourbillons. Et où ça ? Devant le quai Saint-Bernard. Devant le quai Saint-Bernard. Toujours la même suffocation, des gens arrivaient hors d'haleine. Et c'est par là qu'évidemment, Madame Bovary est le roman le plus difficile du point de vue du lecteur, ou le plus facile, si l'on veut. C'est-à-dire que, d'une part, Madame Bovary, il y a une intrigue tout à fait sensible, et tout le monde peut se dire, est-ce que l'adultère c'est chouette, est-ce que l'adultère c'est pas chouette, est-ce que c'est moral, est-ce que c'est pas moral, etc. Bon. Mais ça, évidemment, c'est le désespoir de Flaubert, ce genre de considération. Ça, c'est, bon, c'est la presse du cœur, qui est un côté respectable. Mais tout y est cependant, mais de manière beaucoup plus secrète. Quel est le début ? Nous étions à l'étude. Or, l'étude est par excellence ce domaine fermé, clos. C'est après les cours, c'est pas un cours où ça boule. Non, nous étions à l'étude. Quand ? Pas lorsque. Non. Quand ? Le proviseur Moutrelou entra, suivi d'un nouveau... Et alors ça continue, je saute simplement, je prends tellement les verbes, hein. Ceux qui dormaient, ils étaient comme surpris dans leur travail. Les ordres sont donnés directement à la 5e, 6e nuit, à mi-voix. Il avait les cheveux coupés, il était fort embarrassé, bien sûr. Tout ça, les boutons noirs le gênaient aux entournures et laissaient voir par la fente des parements et puis sortait d'un pantalon, ça finit par des souliers forts, garnis de clous. Et quelle est sa démarche? On commença la récitation des leçons, il les écouta de toutes ses oreilles. Et vous le voyez déjà muré littéralement dans le son. Il va de soi que Flaubert devait s'intéresser à la bêtise. Il va faire là comme Victor Hugo, qui dénonce les cuistres. Le cuistre, c'est le professeur, évidemment. Hein. C'est la bête noire de tous les littérateurs du 19e siècle. C'est le prof, le curé et le politicien. Même chose chez Baudelaire, qui dit carrément de la cuistrerie, et puis il énumère le professeur, etc., jusqu'au ministre. Bon, ça va bien. Chez Flaubert, on revient sur le thème, mais d'une façon qui va être beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire que, en étudiant la bêtise, il va apercevoir, lui qui sent le fonctionnement cérébral, comment, en fin de compte, notre cerveau, oui, c'est tous ces mots que nous avons rencontrés, là, circulant chez Hugo, mais comment c'est d'abord, au départ, des idées reçues. Comment chaque phrase que nous disons est une phrase quasiment toute faite. Et d'où cet admirable dictionnaire des idées reçues qu'on met généralement allant de pair avec Bouvard et Pécuchet, et où on trouve des choses comme ceci. Armée, le rempart de la société. Ça va encore. Le ministre, dernier terme de la gloire humaine. Là, on peut dire encore, tiens, il se moque, il voit le ridicule de notre pensée. Non, non, c'est beaucoup plus profond. C'est que chaque fois que je dis la lumière, j'ai toujours tendance à ajouter fiat lux. Quand je dis la lune, je pense déjà mélancolie. Quand je dis brune, je dis les brunes sont plus chaudes que les blondes. Et d'ailleurs, il fait un petit renvoi dans son dictionnaire. Voyez, blonde, les blondes sont plus chaudes que les brunes. Et comment nous sommes pris dans une circulation de mots? Comment, quand je dis candeur, la candeur est toujours adorable. Et on en est rempli ou on n'en a pas du tout. Comment l'ambition est toujours précédée de folle quand elle n'est pas noble. Comment, en fin de compte, quand nous nous trouvons face à face, nous voyons que nous sommes tous des employés. Et comment nous nous rendons compte que, vraiment, quand l'un dit « C'est là ce que nous avons eu de meilleur », dit Frédéric. « Oui, peut-être bien, c'est là ce que nous avons eu de meilleur », dit Des Lauriers. Ce sont les derniers mots de l'éducation sentimentale. Et ces derniers mots de l'éducation sentimentale sont d'ailleurs les premiers mots de Bouvard et Pécuchet, deux hommes parurent, etc. Ils se rencontrent, et quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute sur le même banc. Pour voir quoi? Qu'ils pensaient exactement les mêmes choses, parce que leur cerveau était le même dictionnaire des idées reçues. Pour finir, nous allons quand même essayer de décrire un tout petit peu cette béatitude. Alors, pour la sentir, sans doute, Baudelaire a relu, dit-on, deux fois, trois fois, quatre fois, tout Spinoza. Et qu'est-ce qu'on trouve chez Spinoza? Spinoza a appris le latin à 20 ans et a sans doute continué toujours à penser en néerlandais. En cela très différent de Descartes, qui est peut-être un écrivain latin avant d'être un écrivain français. Eh bien, chez ce vieux philosophe-là, juif portugais du XVIIe siècle, on trouve d'abord ce mot formidable, « self-standheit ». Stand, tenir, self par soi-même. C'est ce qui tient par soi-même, comme un Hollandais debout sur un quai. Et c'est ce qu'on va traduire misérablement en latin par le mot substantia, c'est-à-dire le machin qui se trouve en dessous. Vous voyez la distance, la déperdition terrible. Mais si vous êtes self-standir, si vous tenez ainsi comme ça ensemble, les caractéristiques que vous avez sont évidemment des tout eigenissen. C'est quelque chose de eigen, quelque chose que vous avez en absolument propre. Mais ce propre, ce eigenissen, se retourne et revient vers vous-même. Et c'est ce que vous allez traduire lamentablement en latin en disant que la substantia, la substance, a des attributa, a des attributs. Et tout ça devient d'ailleurs quasiment inintelligible dans cette langue. Et bien sûr, si vous êtes dans cette situation, vous êtes évidemment dans la situation de celui qui est « omender », de celui qui n'a pas de fin, mais pas du tout avec la finis très délimitée du latin, mais du nouveau avec quelque chose qui est étendu dans le temps et dans l'espace. Vous devenez absolument tout. Mais au moment où vous êtes arrivé à être ainsi le tout, à avoir les idées adéquates qui font que vous acquiescez complètement au tout, que vous arrivez à l'acquiescentia, là il le dit en latin, qu'on a traduit merveilleusement en français par l'acquiescence, précisément quand il s'agit de Spinoza, vous atteignez une félicité très particulière. C'est celle d'Antoine à la fin. Antoine délirant sur son rocher, devenu fou de délire, de soif, de constriction, d'étouffement, mais atteignant, oh bonheur, bonheur, j'ai vu naître la vie. J'ai vu le mouvement commencer. Le sang de mes veines bat si fort qu'il va les rompre. J'ai envie de voler, de nager, d'aboyer, de beugler, de hurler. Je voudrais avoir des ailes, une carapace, une écorce, souffler de la fumée, porter une trompe. Tordre mon corps, me diviser partout, en tout, m'émaner avec les odeurs, me développer comme les plantes, couler comme l'eau, vibrer comme le son, briller comme la lumière, me blottir sur toutes les formes, pénétrer chaque atome, descendre jusqu'au fond de la matière. Être la matière. Et si certains trouvaient que ceci est trop violent, on peut prendre le mouvement, le même mouvement, de façon plus égale. C'est la fin d'un cœur simple. C'est aussi Flaubert, un cœur simple. C'est Félicité qui meurt. Elle porte bien son nom, elle n'ose pas s'appeler Beatitudo, évidemment. Beatitude, la pauvre servante. Elle s'appelle simplement Félicité. Et les encensoirs, allant à pleine volée, glissaient sur leurs chaînettes. Une vapeur d'azur monta dans la chambre de Félicité. Elle avança les narines en la humant. Avec une sensualité mystique, puis ferma les paupières. Ses lèvres souriaient, les mouvements de son cœur se ralentirent un à un, plus vagues chaque fois, plus doux, comme une fontaine s'épuise, comme un écho disparaît. Et quand elle exhala, son dernier souffle, elle le crut voir dans les cieux entr'ouverts un perroquet gigantesque planant au-dessus de sa tête. C'est un peu ce qui nous arrive à nous. Si nous savons lire Flaubert, et ainsi nous sommes prêts pour l'hallucination simple de Rimbaud.